Deuxième partie, chapitre 13. Sans doute, il arrive que des femmes peu cultivées, épousant un homme fort lettré, reçoivent dans leur rapport dotal de telles expressions. Et peu après, la métamorphose qui suit la nuit de noces, quand elles font leur visite et sont réservées avec leurs anciennes amies, on remarque avec étonnement qu'elles sont devenues femmes, si, en décrétant qu'une personne est intelligente, elles mettent deux L au mot « intelligente ». Mais cela est justement le signe d'un changement, et il me semblait qu'il y avait un monde entre les expressions actuelles et le vocabulaire de l'Albertine que j'avais connue à Balbec. Celui où les plus grandes hardiesses étaient de dire d'une personne bizarre « c'est un type ». Ou si on proposait à Albertine de jouer « je n'ai pas d'argent à perdre ». Ou encore si telle de ses amies lui faisait un reproche qu'elle ne trouvait pas justifié « ah, vraiment, je te trouve magnifique !» Phrase dictée dans ces cas-là par une sorte de tradition bourgeoise presque aussi ancienne que le Magnificat lui-même, et qu'une jeune fille, un peu en colère et sûre de son droit, emploie ce qu'on appelle « tout naturellement », c'est-à-dire parce qu'elle les a apprises de sa mère, comme à faire sa prière ou à saluer. Toutes celles-là, Madame Bontemps les lui avait apprises, en même temps que la haine des Juifs et que l'estime pour le noir, où on est toujours convenable et comme il faut, même sans que Madame Bontemps le lui eût formellement enseigné, mais comme ce modèle, au gazouillement des parents, chardonnerait celui des petits chardonnerets récemment nés, de sorte qu'ils deviennent de vrais chardonnerets eux-mêmes. Malgré tout, sélection me parut halogène et, j'estime, encourageant. Albertine n'était plus la même, donc elle n'agirait peut-être pas, ne réagirait pas de même. Non seulement je n'avais plus d'amour pour elle, mais je n'avais même plus à craindre, comme j'aurais pu à Balbec, de briser en elle une amitié pour moi qui n'existait plus. Il n'y avait aucun doute que je lui fusse depuis longtemps devenu fort indifférent. Je me rendis compte que pour elle, je ne faisais plus du tout partie de la petite bande à laquelle j'avais autrefois tant cherché, et j'avais ensuite été si heureux de réussir à être agrégé. Puis, comme elle n'avait même plus, comme à Balbec, un air de franchise et de bonté, je n'éprouvais pas de grands scrupules. Pourtant, je crois que ce qui me décida fut une dernière découverte philologique. Comme, continuant à ajouter un nouvel anneau à la chaîne extérieure de propos sous laquelle je cachais mon désir intime, je parlais, tout en ayant maintenant Albertine au coin de mon lit, d'une des filles de la petite bande, plus menue que les autres, mais que je trouvais tout de même assez jolie. « Oui, » me répondit Albertine. « Elle a l'air d'une petite mousse, mais... » De toute évidence, quand j'avais connu Albertine, le mot de « mousse, mais » lui était inconnu. Il est vraisemblable que si les choses eussent suivi leur cours normal, elle ne l'eût jamais appris. Et je n'y aurais vu, pour ma part, aucun inconvénient, car nul n'est plus horripilant. À l'entendre, on se sent le même mal dedans que si on a mis un trop gros morceau de glace dans sa bouche. Mais chez Albertine, jolie comme elle était, même Mousmé ne pouvait m'être déplaisant. En revanche, il me parut révélateur, sinon d'une initiation extérieure, au moins d'une évolution interne. Malheureusement, il était l'heure où il eût fallu que je lui dise au revoir si je voulais qu'elle rentrât à temps pour son dîner, et aussi que je me levasse assez tôt pour le mien. C'était Françoise qui le préparait. Elle n'aimait pas qu'il attendît et devait déjà trouver contraire à un des articles de son code qu'Albertine, en l'absence de mes parents, m'eût fait une visite aussi prolongée et qui allait tout mettre en retard. Mais devant Mousmé, ses raisons tombèrent et je me hâtai de dire « Imaginez-vous que je ne suis pas chatouilleux du tout. Vous pourriez me chatouiller pendant une heure que je ne le sentirais même pas. » « Vraiment ? Je vous assure. » Elle comprit sans doute que c'était l'expression maladroite d'un désir, car comme quelqu'un qui vous offre une recommandation que vous n'osiez pas solliciter, mais dont vos paroles lui ont prouvé qu'elle pouvait vous être utile. « Voulez-vous que j'essaye ? » dit-elle avec l'humilité de la femme. « Si vous voulez, mais alors ce serait plus commode que vous vous étendiez tout à fait sur mon lit. » « Comme cela ? » « Non, enfoncez-vous. » « Mais je ne suis pas trop lourde. » Comme elle finissait cette phrase, la porte s'ouvrit et Françoise, portant une lampe, entra. Albertine n'eut que le temps de se rasseoir sur la chaise. Peut-être Françoise avait-elle choisi cet instant pour nous confondre, étant à écouter à la porte, ou même à regarder par le trou de la serrure. Mais je n'avais pas besoin de faire une telle supposition. Elle avait pu dédaigner de s'assurer par les yeux de ce que son instinct avait dû suffisamment flairer. Car à force de vivre avec moi et mes parents, la crainte, la prudence, l'attention et la ruse avaient fini par lui donner de nous cette sorte de connaissance instinctive et presque divinatoire qu'a de la mer le matelot, du chasseur le gibier et de la maladie, sinon le médecin, du moins souvent le malade. Tout ce qu'elle arrivait à savoir aurait pu stupéfier à aussi bon droit que l'état avancé de certaines connaissances chez les anciens, vu les moyens presque nuls d'information qu'elle possédait. Les siens n'étaient pas plus nombreux. C'étaient quelques propos formant à peine le 20e de notre conversation à dîner, recueillis à la volée par le maître d'hôtel et inexactement transmis à l'office. Encore, ces erreurs tenaient-elles plutôt, comme les leurs, comme les fables auxquelles Platon croyait, à une fausse conception du monde et à des idées préconçues qu'à l'insuffisance des ressources matérielles. C'est ainsi que, de nos jours encore, les plus grandes découvertes dans les mœurs des insectes ont pu être faites par un savant qui ne disposait d'aucun laboratoire, de nul appareil. Mais si les gènes qui résultaient de sa position de domestique ne l'avaient pas empêché d'acquérir une science indispensable à l'art qui en était le terme, et qui consistait à nous confondre en nous en communiquant les résultats, la contrainte avait fait plus. Là, l'entrave ne s'était pas contentée de ne pas paralyser les sorts, elle y avait puissamment aidé. Sans doute, Françoise ne négligeait aucun adjuvant, celui de la diction et de l'attitude, par exemple. Comme, si elle ne croyait jamais ce que nous lui disions et que nous souhaitions qu'elle crût, elle admettait sans l'ombre d'un doute ce que toute personne de sa condition lui racontait de plus absurde et qui pouvait en même temps choquer nos idées, autant sa manière d'écouter nos assertions témoignait de son incrédulité. Autant l'accent avec lequel elle rapportait, car le discours indirect lui permettait de nous adresser les pires injures avec impunité, le récit d'une cuisinière qui lui avait raconté qu'elle avait menacé ses maîtres et en avait obtenu, en les traitant devant tout le monde de fumier, 1000 faveurs, montrait que c'était pour elle parole d'évangile. Françoise ajoutait même « Moi, si j'avais été patronne, je me serais trouvée vexée. » Nous avions beau, malgré notre peu de sympathie originelle pour la dame du 4e, hausser les épaules comme à une fable invraisemblable, à ce récit d'un si mauvais exemple. En le faisant, la narratrice savait prendre le cassant, le tranchant de la plus indiscutable et plus exaspérante affirmation. Mais surtout, comme les écrivains arrivent souvent à une puissance de concentration dont les eût dispensé le régime de la liberté politique ou de l'anarchie littéraire, quand ils sont ligotés par la tyrannie d'un monarque ou d'une poétique, par les sévérités des règlements prosodiques ou d'une religion d'État, Ainsi, Françoise, ne pouvant nous répondre d'une façon explicite, parlait comme Tirésias et eût écrit comme Tacite. Elle savait faire tenir tout ce qu'elle ne pouvait exprimer directement dans une phrase que nous ne pouvions incriminer sans nous accuser. Dans moins qu'une phrase même, dans un silence, dans la manière dont elle plaçait un objet. Ainsi, quand il m'arrivait de laisser, par mégarde, sur ma table, au milieu d'autres lettres, une certaine qu'il n'eût pas fallu qu'elle vît, par exemple parce qu'il y était parlé d'elle avec une malveillance qui en supposait une aussi grande à son égard chez le destinataire que chez l'expéditeur, le soir, si je rentrais inquiet et allais droit à ma chambre, sur mes lettres, rangées bien en ordre en une pile parfaite, le document compromettant frappait tout d'abord mes yeux, comme il n'avait pas pu ne pas frapper ceux de Françoise, placés par elle tout en dessus, presque à part, en une évidence qui était un langage, avait son éloquence, et dès la porte me faisait tressaillir comme un cri. Elle excellait à régler ces mises en scène destinées à instruire si bien le spectateur, Françoise absente, qu'il savait déjà qu'elle savait tout quand ensuite elle faisait son entrée. Elle avait, pour faire parler ainsi un objet inanimé, l'art à la fois génial et patient d'Irving et de Frédéric Lemaître. En ce moment, tenant au-dessus d'Albertine et de moi la lampe allumée, qui ne laissait dans l'ombre aucune des dépressions encore visibles que le corps de la jeune fille avait creusées dans le couvre-pied, Françoise avait l'air de la justice éclairant le crime. La figure d'Albertine ne perdait pas à cet éclairage. Il découvrait, sur les joues, le même vernis ensoleillé qui m'avait charmé à Balbec. Ce visage d'Albertine, dont l'ensemble avait quelquefois, dehors, une espèce de pâleur blême, montrait, au contraire, au fur et à mesure que la lampe les éclairait, des surfaces si brillamment, si uniformément colorées, si résistantes et si lisses, qu'on aurait pu les comparer aux carnations soutenues de certaines fleurs. Surpris pourtant par l'entrée inattendue de Françoise, je m'écriais « Comment, déjà la lampe? Mon Dieu, que cette lumière est vive !» Mon but était sans doute, par la seconde de ces phrases, de dissimuler mon trouble, par la première, d'excuser mon retard. Françoise répondit avec une ambiguïté cruelle « Faut-il que j'éteigne ?»« Teigne !» glissa à mon oreille Albertine, me laissant charmer par la vivacité familière avec laquelle, me prenant à la fois pour maître et pour complice, elle insinua cette affirmation psychologique dans le ton interrogatif d'une question grammaticale. Quand Françoise fut sortie de la chambre et Albertine rassise sur mon lit, « Savez-vous ce dont j'ai peur ?» lui dis-je. « C'est que si nous continuons comme cela, je ne puisse pas m'empêcher de vous embrasser. Ce serait un beau malheur. » Je n'obéis pas tout de suite à cette invitation. Un autre lui-même put trouver superflu, car Albertine avait une prononciation si charnelle et si douce que, rien qu'en vous parlant, elle semblait vous embrasser. Une parole d'elle était une faveur, et sa conversation vous couvrait de baisers. Et pourtant elle m'était bien agréable, cette invitation. Elle me l'eût été même d'une autre jolie fille du même âge. Mais qu'Albertine me fût maintenant si facile, cela me causait plus que du plaisir, une confrontation d'images empreintes de beauté. Je me rappelais Albertine d'abord devant la plage, presque peinte sur le fond de la mer, n'ayant pas pour moi une existence plus réelle que ces visions de théâtre, où on ne sait pas si on a affaire à l'actrice qui est censée apparaître, à une figurante qui la double à ce moment-là, ou à une simple projection. Puis la femme vraie s'était détachée du faisceau lumineux. Elle était venue à moi, mais simplement pour que je pusse m'apercevoir qu'elle n'avait nullement, dans le monde réel, cette facilité amoureuse qu'on lui supposait empreinte dans le tableau magique. J'avais compris qu'il n'était pas possible de la toucher, de l'embrasser, qu'on pouvait seulement causer avec elle, que pour moi elle n'était pas plus une femme que des raisins de jade. Décoration incomestible des tables d'autrefois, ne sont des raisins. Et voici que dans un troisième plan, elle m'apparaissait, réelle comme dans la seconde connaissance que j'avais eue d'elle, mais facile comme dans la première. Facile et d'autant plus délicieusement que j'avais cru si longtemps qu'elle ne l'était pas. Mon surplus de science sur la vie moins unie, moins simple que je ne l'avais cru d'abord, aboutissait provisoirement à l'agnosticisme. Que peut-on affirmer, puisque ce qu'on avait cru d'abord probable s'est montré faux ensuite, et se trouve en troisième lieu être vrai. Et hélas, je n'étais pas au bout de mes découvertes avec Albertine. En tout cas, même s'il n'y avait pas eu l'attrait romanesque de cet enseignement d'une plus grande richesse de plans découverts l'un après l'autre par la vie, cet attrait inverse de celui que Saint-Loup goûtait pendant les dîners de Rivebelle à retrouver, parmi les masques que l'existence avait superposés dans une calme figure, des traits qu'il avait jadis tenus sous ses lèvres, savoir qu'embrasser les joues d'Albertine était une chose possible, c'était un plaisir peut-être plus grand encore que celui de les embrasser. Quelle différence entre posséder une femme sur laquelle notre corps seul s'applique parce qu'elle n'est qu'un morceau de chair, ou posséder la jeune fille qu'on apercevait sur la plage avec ses amis certains jours, sans même savoir pourquoi ces jours-là plutôt que tels autres, ce qui faisait qu'on tremblait de ne pas la revoir. La vie vous avait complaisamment révélé tout au long le roman de cette petite fille. Vous avez prêté pour la voir un instrument d'optique, puis un autre, et ajouté au désir charnel un accompagnement qui le centuple et le diversifie, de ces désirs plus spirituels et moins assouvissables qui ne sortent pas de leur torpeur et le laissent aller seul quand il ne prétend qu'à la saisie d'un morceau de chair. Mais qui, pour la possession de toute une région de souvenirs d'où il se sentait nostalgiquement exilé, s'élèvent en tempête à côté de lui, le grossissent, ne peuvent le suivre jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à l'assimilation, impossible sous la forme où elle est souhaitée, d'une réalité immatérielle, mais attendent ce désir à mi-chemin, et au moment du souvenir, du retour, lui font à nouveau escorte. Baiser, au lieu des joues de la première venue, si fraîche soit-elle, mais anonyme, sans secret, sans prestige, celles auxquelles j'avais si longtemps rêvé, seraient connaître le goût, la saveur, d'une couleur bien souvent regardée. On a vu une femme, simple image dans le décor de la vie, comme Albertine profilée sur la mer. Et puis cette image, on peut la détacher, la mettre près de soi, et voir peu à peu son volume, ses couleurs, comme si on l'avait fait passer derrière les verres d'un stéréoscope. C'est pour cela que les femmes un peu difficiles, qu'on ne possède pas tout de suite, dont on ne sait même pas tout de suite qu'on pourra jamais les posséder, sont les seules intéressantes. Car les connaître, les approcher, les conquérir, c'est faire varier de forme, de grandeur, de relief, l'image humaine. C'est une leçon de relativisme dans l'appréciation. Belle à réapercevoir quand elle a repris sa minceur de silhouette dans le décor de la vie. Les femmes qu'on connaît d'abord chez l'entremetteuse n'intéressent pas parce qu'elles restent invariables. D'autre part, Albertine tenait, liées autour d'elle, toutes les impressions d'une série maritime qui m'était particulièrement chère. Il me semblait que j'aurais pu, sur les deux joues de la jeune fille, embrasser toute la plage de Balbec. Si vraiment vous permettez que je vous embrasse, j'aimerais mieux remettre cela à plus tard et bien choisir mon moment. Seulement, il ne faudrait pas que vous oubliez alors que vous m'avez permis. Il me faut un bon pour un baiser. Faut-il que je le signe? Mais si je le prenais tout de suite, en aurais-je un tout de même plus tard? Vous m'amusez avec vos bons. Je vous en referai de temps en temps. Dites-moi, encore un mot. Vous savez, à Balbec, quand je ne vous connaissais pas encore, vous aviez souvent un regard dur, rusé. Vous ne pouvez pas me dire à quoi vous pensiez à ces moments-là? Ah ? Je n'ai aucun souvenir. Tenez, pour vous aider, un jour, votre amie Gisèle a sauté à pieds joints par-dessus la chaise où était assis un vieux monsieur. Tâchez de vous rappeler ce que vous avez pensé à ce moment-là. Gisèle était celle que nous fréquentions le moins. Elle était de la bande, si vous voulez, mais pas tout à fait. J'ai dû penser qu'elle était bien mal élevée et commune. Ah, c'est tout ? J'aurais bien voulu, avant de l'embrasser, pouvoir la remplir à nouveau du mystère qu'elle avait pour moi sur la plage, avant que je la connusse. Retrouver en elle le pays où elle avait vécu auparavant. À sa place, du moins, si je ne le connaissais pas, je pouvais insinuer tous les souvenirs de notre vie à Balbec, le bruit du flot déferlant sous ma fenêtre, les cris des enfants. Mais en laissant mon regard glisser sur le beau globe rose de ses joues, dont les surfaces doucement incurvées venaient mourir au pied des premiers plissements de ses beaux cheveux noirs qui couraient en chaînes mouvementées, soulevaient leurs contreforts escarpés et modelaient les ondulations de leurs vallées, je dus me dire « Enfin, n'y ayant pas réussi à Balbec, je vais savoir le goût de la rose inconnue que sont les joues d'Albertine. Et puisque les cercles que nous pouvons faire traverser aux choses et aux êtres pendant le cours de notre existence ne sont pas bien nombreux, peut-être pourrais-je considérer la mienne comme en quelque manière accomplie, quand, ayant fait sortir de son cadre lointain le visage fleuri que j'avais choisi entre tous, je l'aurai amené dans ce plan nouveau, où j'aurai enfin de lui la connaissance par les lèvres. Je me disais cela parce que je croyais qu'il est une connaissance par les lèvres. Je me disais que j'allais connaître le goût de cette rose charnelle, parce que je n'avais pas songé que l'homme, créature évidemment moins rudimentaire que l'oursin ou même la baleine, manque cependant encore d'un certain nombre d'organes essentiels, et notamment n'en possède aucun qui serve au baiser. À cet organe absent, il supplée par les lèvres, et par là arrive-t-il peut-être à un résultat un peu plus satisfaisant que s'il était réduit à caresser la bien-aimée avec une défense de corne. Mais les lèvres, faites pour amener au palais la saveur de ce qui les tente, doivent se contenter, sans comprendre leur erreur et sans avouer leur déception, de vaguer à la surface et de se heurter à la clôture de la joue impénétrable et désirée. D'ailleurs, à ce moment-là, au contact même de la chair, les lèvres, même dans l'hypothèse où elles deviendraient plus expertes et mieux douées, ne pourraient sans doute pas goûter davantage la saveur que la nature les empêche actuellement de saisir, car dans cette zone désolée où elles ne peuvent trouver leur nourriture, elles sont seules. Le regard, puis l'odorat, les ont abandonnées depuis longtemps. D'abord, au fur et à mesure que ma bouche commença à s'approcher des joues que mes regards lui avaient proposé d'embrasser, ceux-ci se déplaçant virent des joues nouvelles. Le cou, aperçu de plus près et comme à la loupe, montra dans ses gros plans une robustesse qui modifia le caractère de la figure. Les dernières applications de la photographie, qui couchent au pied d'une cathédrale toutes les maisons qui nous parurent si souvent de près, presque aussi hautes que les tours, font successivement manœuvrer comme un régiment, par file, en ordre dispersé, en masse serrée, les mêmes monuments, rapprochent l'une contre l'autre les deux colonnes de la piazzetta, tout à l'heure si distantes, éloignent la proche salute, et dans un fond pâle et dégradé, réussissent à faire tenir un horizon immense sous l'arche d'un pont, dans l'embrasure d'une fenêtre, entre les feuilles d'un arbre, situé au premier plan et d'un ton plus vigoureux, donnent successivement pour cadre à une même église les arcades de toutes les autres. Je ne vois que cela qui puisse, autant que le baiser, faire surgir de ce que nous croyons une chose à aspect défini, les cent autres choses qu'elle est tout aussi bien, puisque chacune est relative à une perspective non moins légitime. Bref, de même qu'à Balbec, Albertine m'avait souvent paru différente. Maintenant, comme si, en accélérant prodigieusement la rapidité des changements de perspective et des changements de coloration que nous offre une personne dans nos diverses rencontres avec elle, j'avais voulu les faire tenir toutes en quelques secondes pour recréer expérimentalement le phénomène qui diversifie l'individualité d'un être et tirer les unes des autres, comme d'un étui, toutes les possibilités qu'il enferme, dans ce court trajet de mes lèvres vers sa joue. C'est 10 Albertines que je vis. Cette seule jeune fille étant comme une déesse à plusieurs têtes. Celle que j'avais vue en dernier, si je tentais de m'approcher d'elle, faisait place une autre. Du moins, tant que je ne l'avais pas touchée, cette tête, je la voyais. Un léger parfum venait d'elle jusqu'à moi. Mais hélas, car pour le baiser, nos narines et nos yeux sont aussi mal placés que nos lèvres mal faites. Tout d'un coup, mes yeux cessèrent de voir. À son tour, mon nez s'écrasant ne perçut plus aucune odeur, et sans connaître pour cela davantage le goût du rose désiré, j'appris à ces détestables signes qu'enfin j'étais en train d'embrasser la joue d'Albertine. Était-ce parce que nous jouions, figurée par la révolution d'un solide, la scène inverse de celle de Balbec, que j'étais, moi couchée et elle levée, capable d'esquiver une attaque brutale et de diriger le plaisir à sa guise, qu'elle me laissa prendre avec tant de facilité maintenant ce qu'elle avait refusé jadis avec une mine si sévère? Sans doute, de cette mine d'autrefois, l'expression voluptueuse que prenait aujourd'hui son visage à l'approche de mes lèvres ne différait que par une déviation de lignes infinitésimales, mais dans lesquelles peut tenir toute la distance qu'il y a entre le geste d'un homme qui achève un blessé et d'un qui le secourt, entre un portrait sublime ou affreux. Sans savoir si j'avais à faire honneur et savoir gré de son changement d'attitude à quelque bienfaiteur involontaire qui, un de ces mois derniers, à Paris ou à Balbec, avait travaillé pour moi, je pensais que la façon dont nous étions placés était la principale cause de ce changement. C'en fut pourtant une autre que me fournit Albertine. Exactement celle-ci. Ah ! C'est qu'à ce moment-là, à Balbec, je ne vous connaissais pas. Je pouvais croire que vous aviez de mauvaises intentions. » Cette raison me laissa perplexe. Albertine me la donna sans doute sincèrement. Une femme a tant de peine à reconnaître dans les mouvements de ses membres, dans les sensations éprouvées par son corps au cours d'un tête-à-tête avec un camarade, la faute inconnue où elle tremblait qu'un étranger préméditât de la faire tomber. En tout cas, quelles que fussent les modifications survenues depuis quelque temps dans sa vie, et qui eussent peut-être expliqué qu'elle eût accordé aisément à mon désir momentané et purement physique ce qu'à Balbec elle avait avec horreur refusé à mon amour, une bien plus étonnante se produisit en Albertine ce soir-là même, aussitôt que ses caresses eurent amené chez moi la satisfaction dont elle dut bien s'apercevoir, et dont j'avais même craint qu'elle ne lui causât le petit mouvement de répulsion et de pudeur offensée que Gilberte avait eu à un moment semblable derrière le massif de lauriers aux Champs-Élysées. Ce fut tout le contraire. Déjà, au moment où je l'avais couchée sur mon lit et où j'avais commencé à la caresser, Albertine avait pris un air que je ne lui connaissais pas, de bonne volonté docile, de simplicité presque puérile, effaçant d'elle toute préoccupation, toutes prétentions habituelles. Le moment qui précède le plaisir, pareil en cela à celui qui suit la mort, avait rendu à ses traits rajeunis comme l'innocence du premier âge. Et sans doute, tout être dont le talent est soudain mis en jeu devient modeste, appliqué et charmant. Surtout si, par ce talent, il sait nous donner un grand plaisir, il en est lui-même heureux, veut nous le donner bien complet. Mais dans cette expression nouvelle du visage d'Albertine, il y avait plus que du désintéressement et de la conscience, de la générosité professionnelle. Une sorte de dévouement conventionnel et subi. Et c'est plus loin qu'à sa propre enfance, mais à la jeunesse de sa race qu'elle était revenue. Bien différente de moi, qui n'avais rien souhaité de plus qu'un apaisement physique, enfin obtenu, Albertine semblait trouver qu'il y eût eu de sa part quelque grossièreté à croire que ce plaisir matériel alla sans un sentiment moral et termina quelque chose. Elle s'y pressait tout à l'heure, maintenant sans doute, et parce qu'elle trouvait que les baisers impliquent l'amour et que l'amour l'emporte sur tout autre devoir, disait, quand je lui rappelais son dîner, « Mais ça ne fait rien du tout, voyons, j'ai tout mon temps !» Elle semblait gênée de se lever tout de suite après ce qu'elle venait de faire. Gênée par bienséance, comme Françoise, quand elle avait cru, sans avoir soif, devoir accepter avec une gaieté décente le verre de vin que Jupien lui offrait. N'aurait pas osé partir aussitôt la dernière gorgée bue, quelque devoir impérieux qui l'eût appelé. Albertine, et c'était peut-être, avec une autre que l'on verra plus tard, une des raisons qui m'avait à mon insu fait la désirer, était une des incarnations de la petite paysanne française, dont le modèle est en pierre à Saint-André-des-Champs. De Françoise, qui devait pourtant bientôt devenir sa mortelle ennemie, je reconnus en elle la courtoisie envers l'hôte et l'étranger, la décence, le respect de la couche. Françoise, qui, après la mort de ma tante, ne croyait pouvoir parler que sur un ton apitoyé dans les mois qui précédèrent le mariage de sa fille, eût trouvé choquant, quand celle-ci se promenait avec son fiancé, qu'elle ne le tînt pas par le bras. Albertine, immobilisée auprès de moi, me disait « Vous avez de jolis cheveux, vous avez de beaux yeux, vous êtes gentil. » Comme, lui ayant fait remarquer qu'il était tard, j'ajoutais « Vous ne me croyez pas ?» Elle me répondit, ce qui était peut-être vrai, mais seulement depuis 2 minutes et pour quelques heures, « Je vous crois toujours !» Elle me parla de moi, de ma famille, de mon milieu social. Elle me dit « Oh, je sais que vos parents connaissent des gens très bien. Vous êtes amis de Robert Forestier et de Suzanne Delage. » À la première minute, ces noms ne me dirent absolument rien. Mais tout d'un coup, je me rappelais que j'avais en effet joué aux Champs-Élysées avec Robert Forestier, que je n'avais jamais revu. Quant à Suzanne Delage, c'était la petite nièce de Madame Blandet, et j'avais dû, une fois, aller à une leçon de danse, et même tenir un petit rôle dans une comédie de salon chez ses parents. Mais la peur d'avoir le fou rire et des saignements de nez m'en avait empêché, de sorte que je ne l'avais jamais vue. J'avais tout au plus cru comprendre autrefois que l'institutrice à Plumet des Swann avait été chez ses parents, mais peut-être n'était-ce qu'une sœur de cette institutrice, ou une amie. Je protestais à Albertine que Robert Forestier et Suzanne Delage tenaient peu de place dans ma vie. C'est possible, vos mères sont liées, cela permet de vous situer. Je croise souvent Suzanne Delage avenue de Messine. Elle a du chic. Nos mères ne se connaissaient que dans l'imagination de Madame Bontemps, qui, ayant su que j'avais joué jadis avec Robert Forestier, auquel, paraît-il, je récitais des vers, en avait conclu que nous étions liés par des relations de famille. Elle ne laissait jamais, m'a-t-on dit, passer le nom de maman sans dire « Ah oui, c'est le milieu des Delage, des Forestiers, etc. » donnant à mes parents un bon point qu'ils ne méritaient pas. Du reste, les notions sociales d'Albertine étaient d'une sottise extrême. Elle croyait les Simonets avec deux N inférieurs, non seulement aux Simonets avec un seul N, mais à toutes les autres personnes possibles. Que quelqu'un ait le même nom que vous, sans être de votre famille, est une grande raison de le dédaigner. Certes, il y a des exceptions. Il peut arriver que deux Simonets, présentés l'un à l'autre dans une de ces réunions où l'on éprouve le besoin de parler de n'importe quoi, et où on se sent d'ailleurs plein de dispositions optimistes, par exemple dans le cortège d'un enterrement qui se rend au cimetière, voyant qu'ils s'appellent d'eux-mêmes, cherchent avec une bienveillance réciproque, et sans résultat, s'ils n'ont aucun lien de parenté. Mais ce n'est qu'une exception. Beaucoup d'hommes sont peu honorables, mais nous l'ignorons ou n'en avons cure. Mais si l'homonymie fait qu'on nous remet des lettres à eux destinées, ou vice-versa, nous commençons par une méfiance, souvent justifiée, quant à ce qu'ils valent. Nous craignons des confusions, nous les prévenons par une moue de dégoût si l'on nous parle d'eux. En lisant notre nom porté par eux dans le journal, ils nous semblent l'avoir usurpé. Les péchés des autres membres du corps social nous sont indifférents. Nous en chargeons plus lourdement nos homonymes. La haine que nous portons aux autres Simonets est d'autant plus forte qu'elle n'est pas individuelle, mais se transmet héréditairement. Au bout de deux générations, on se souvient seulement de la moue insultante que les grands-parents avaient à l'égard des autres Simonets. On ignore la cause. On ne serait pas étonné d'apprendre que cela a commencé par un assassinat. Jusqu'au jour fréquent où, entre une Simonet et un Simonet qui ne sont pas parents du tout, cela finit par un mariage. Non seulement Albertine me parla de Robert Forestier et de Suzanne Delage, mais spontanément, par un devoir de confidence que le rapprochement des corps crée, au début du moins, avant qu'il ait engendré une duplicité spéciale et le secret envers le même être, Albertine me raconta sur sa famille et un oncle d'André une histoire dont elle avait, à Balbec, refusé de me dire un seul mot, mais elle ne pensait pas qu'elle dût paraître avoir encore des secrets à mon égard. Maintenant, sa meilleure amie lui eut raconté quelque chose contre moi, qu'elle se fût fait un devoir de me le rapporter. J'insistai pour qu'elle rentrât. Elle finit par partir. Mais si confuse pour moi de ma grossièreté qu'elle riait presque pour m'excuser, comme une maîtresse de maison chez qui on va en veston, qui vous accepte ainsi, mais à qui cela n'est pas indifférent. « Vous riez ?» lui dis-je. « Je ne ris pas, je vous souris, » me répondit-elle tendrement. « Quand est-ce que je vous revois ?» ajouta-t-elle comme n'admettant pas que ce que nous venions de faire, puisque c'en est d'habitude le couronnement, ne fût pas au moins le prélude d'une amitié grande, d'une amitié préexistante, et que nous nous devions de découvrir, de confesser, et qui seul pouvait expliquer ce à quoi nous nous étions livrés. « Puisque vous m'y autorisez, quand je pourrai, je vous ferai chercher. » Je n'osais lui dire que je voulais tout subordonner à la possibilité de voir Madame de Stermaria. Hélas, ce sera à l'improviste, je ne sais jamais d'avance, lui dis-je. Serait-ce possible que je vous fisse chercher le soir quand je serai libre ? Ce sera très possible bientôt, car j'aurai une entrée indépendante de celle de ma tante. Mais en ce moment, c'est impraticable. En tout cas, je viendrai à tout hasard demain ou après-demain dans l'après-midi. Vous ne me recevrez que si vous le pouvez. » Arrivée à la porte, étonnée que je ne l'eusse pas devancée, elle me tendit sa joue, trouvant qu'il n'y avait nul besoin d'un grossier désir physique pour que maintenant nous nous embrassions. Comme les courtes relations que nous avions eues tout à l'heure ensemble étaient de celles auxquelles conduisent parfois une intimité absolue et un choix du cœur, Albertine avait cru devoir improviser et ajouter momentanément au baiser que nous avions échangé sur mon lit le sentiment dont ils eussent été le signe pour un chevalier et sa dame, tel que pouvait les concevoir un jongleur gothique.